Alors, vous l'avez remarqué, nous sommes dans la période de l'Avent. Et cette année, pour cette période de l'Avent, on se proposait de faire ensemble une série de prédications, de regarder dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, les annonces qui ont été faites de la venue de Jésus. Et essayer de comprendre ainsi différentes facettes de qui il était, du ministère qu'il avait lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il était parmi nous. Aujourd'hui, on va regarder une troisième facette. Et pour ça, on va ouvrir le prophète Ésaïe. Ça tombe bien. Monique et Emilio nous ont rappelé ce qu'était un prophète. Donc, Ésaïe, au chapitre 42. Vous pouvez soit écouter, soit suivre dans vos Bibles. Enfin, même si vous suivez dans vos Bibles, c'est bien d'écouter. Ésaïe, au chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi et que j'agrée. J'ai mis sur lui mon souffle. Il imposera l'équité aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne se fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Il imposera loyalement l'équité. Il ne vacillera pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur la terre. Les îles attendent sa loi. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, celui qui crée le ciel et qui le déploie, celui qui étale la terre et ses productions, celui qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main. Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse le prisonnier et de la maison de détention les habitants des ténèbres. Je suis le Seigneur, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Le passé est arrivé. Je vous annonce du nouveau. Avant que cela ne germe, je vous le fais entendre. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Alors, je vous le disais, on est dans une série, petit rappel, des différentes figures qu'on a pu voir. On a commencé par la descendance de la femme, celui qui doit venir écraser la tête du serpent. La semaine dernière, on a vu le nouveau Moïse, le prophète qui revient donner sa loi pour le monde. Ces deux images, on les trouvait dans un verset relativement court, une allusion qui était faite, bien solide, mais une allusion. Là, aujourd'hui, avec notre lecture du prophète Ésaïe, on a quelque chose de plus long, de plus précis. Un texte qui décrit quelqu'un à venir. On a terminé la lecture par ça, je vous annonce du nouveau, avant que cela ne germe, je vous le fais entendre. Quelqu'un qui est décrit. Et ce quelqu'un, on a une petite idée de qui c'est. C'est Jésus. Enfin, Monique et Mélio nous l'ont dit. Et puis de toute façon, on le sait. Quand j'étais plus jeune, j'avais retenu que Ésaïe, c'était le prophète qui annonce Jésus. En fait, Ésaïe, c'est un peu plus long que ça, et puis il raconte beaucoup d'autres choses. Ça me fait penser un peu à quand j'ai regardé les films de la guerre des étoiles avec mes enfants, la première fois que je leur ai montré. Et la première fois que Dark Vador est arrivé à l'écran, ils m'ont dit « Ah, c'est le père de Luke ». Moi, j'ai dû attendre vachement longtemps et j'ai été surpris. Et quand j'ai vu que c'est son père, j'ai découvert ça. Et aujourd'hui, les jeunes, quand ils regardent La Guerre des Étoiles, ils le savent déjà parce que c'est super connu. Ben, on est un peu dans cette situation-là avec le prophète Ésaïe. On connaît la fin. On sait qu'il annonce Jésus. Mais ce que je vous propose, c'est d'essayer de regarder le texte un peu comme s'il était nouveau. Essayez de voir ce que ce texte peut vouloir dire. Ce texte, donc, il annonce quelqu'un, il annonce un serviteur. Voici mon serviteur. Et dans le livre du prophète Ésaïe, à partir de ce passage-là, il va y avoir ce personnage, ce serviteur qui va être décrit à plusieurs reprises. Il y a comme ça cinq textes. Quatre textes qui sont appelés les chants du serviteur, avec un cinquième aussi qui en parle également. Si vous voulez les lire, pourquoi pas le faire pendant cette semaine ? Il y en a cinq pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et arrivé à Noël, vous connaissez le serviteur qui vient. Je vous donne les références. Si vous voulez lire, chapitre 42, versets 1 à 9. Le deuxième se trouve, chapitre 49, versets 1 à 13. Il y a un troisième chant du serviteur au chapitre 50, versets 4 à 11. Le quatrième chant du serviteur est un peu plus long. Il commence au chapitre 52, versets 13 et jusqu'à la fin du chapitre 53. Il y a aussi le chapitre 61, versets 1 à 9, qui parle aussi de ce serviteur. Voilà, une belle lecture qui peut être suivie et qui peut, comme ça, par touches successives, faire saisir mieux le portrait de ce serviteur. Aujourd'hui, c'est ce texte que nous lisons au chapitre 42. La première chose qu'on voit de ce serviteur, c'est qu'il est au service de Dieu. Un serviteur, c'est toujours au service de quelqu'un, et c'est au service de Dieu qu'il est. La présence de Dieu est très forte dans ce texte. Il commence avec ça, « Mon serviteur que je soutiens, que je choisis, que j'agrée. » Trois termes, de plus en plus forts. Je le soutiens, je suis d'accord avec son action, avec ce qu'il fait. Je le choisis, c'est un choix volontaire de la part de Dieu que de le choisir, et je l'agrée. C'est-à-dire, je lui donne l'agrément, je donne le droit d'agir en mon nom. Dans d'autres traductions, c'est celui qui fait toute ma joie. Et dans ce texte, à travers son prophète, Dieu ne parle pas seulement de ce serviteur qui doit venir, il parle aussi de lui-même. Il rappelle qui il est, celui qui a créé le monde, celui qui le maintient en vie, celui qui pourvoit au jour le jour. Il rappelle aussi ce qui lui est dû. La gloire, la louange. Il ne veut pas que la gloire qui lui revient soit donnée à un autre, ni à des idoles, ni à d'autres dieux, ni même aux serviteurs. Le serviteur n'est pas un concurrent de Dieu. Quand il agit pour lui, la gloire revient à Dieu. Serviteur qui vient pour agir au nom de Dieu avec une mission bien précise, apporter l'équité. Trois fois dans ce court passage, apporter l'équité et répéter. Qu'est-ce que l'équité ? J'ai regardé dans le dictionnaire. L'équité, c'est la vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de la justice. L'équité, c'est différent de l'égalité. L'égalité, c'est tout le monde pareil. L'équité tient compte des différences et s'y adapte. L'équité, c'est la justice quand l'égalité est la similitude. Mais quand on a une question de vocabulaire dans la Bible, le mieux, c'est encore de regarder dans d'autres traductions. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Et à regarder d'autres traductions, on voit par le choix des traducteurs ce que voulait dire l'auteur dans la langue originale. Dans beaucoup de traductions, on parle du droit. Il vient établir le droit ou la justice, faire paraître le jugement. Le serviteur vient apporter l'équité, il vient apporter le droit, la justice, que tout le monde soit traité de façon juste. C'est sa mission. Dieu trouve que ce monde manque de justice. Il envoie son serviteur pour l'apporter. Deuxième chose qui moi me frappe lorsque je lis ce texte, c'est plus encore que parler de la mission, le texte va parler de comment le serviteur va agir. Comment est-ce qu'il va agir? Qu'est-ce qu'il va faire? Il parle de sa voix. Il ne va pas crier, élever la voix, chercher à se faire entendre. Crier, ça relève de l'agression. C'est quand on, avec sa voix, on agresse. Élever la voix, c'est être dans le combat pour essayer de passer au-dessus de l'autre. Ça, il ne le fait pas. Et même se faire entendre, chercher à se faire entendre dans les rues, sortir pour faire de la publicité, même ça, il ne le fait pas. Le serviteur est quelqu'un qui agit avec douceur. Il est là pour ceux qui veulent de lui. Il parle à ceux qui veulent bien écouter. Et sa méthode aussi, la loyauté. Il imposera loyalement l'équité. Il ne brise pas le roseau qui ploie, il n'éteint pas la mèche qui vacille. C'est-à-dire que lorsqu'il n'attend pas que les gens soient en difficulté pour leur dire « Ah, tu vois, j'avais raison !» Ceux qui sont en difficulté, il les respecte et il attend. C'est loyalement qu'il se fait entendre, qu'il dit ce qu'il a à dire, non pas en profitant d'une situation de faiblesse. Et lui-même ne faiblit pas. Il ne touche pas à celui qui faiblit, il ne touche pas à celui qui vacille, lui-même ne vacille pas, il ne faiblit pas. Il ira jusqu'au bout de sa mission. Il imposera l'équité, ou littéralement, si j'en crois les traducteurs de la version que j'utilise, il fera sortir l'équité, il la fera émerger. J'aime bien cette traduction un peu plus lourde, parce que littérale, mais de faire émerger l'équité, le droit. Je trouve que ça colle bien avec le portrait du serviteur, sa douceur, sa loyauté, sa persévérance. Apporter l'équité avec douceur, loyauté, persévérance. Voilà ce qui est appelé à faire le serviteur. Et quand on lit ce texte, c'est pas vous, moi c'est un texte à chaque fois qui me fait du bien, qui m'apaise, qui me fait envie. Quand je lis ce texte, je vois, oui, c'est ça ce à quoi j'aspire. Dieu le sait et il envoie son serviteur pour cela. Loué soit-il. Nous avons soif de cette équité. Mais avant de trop vite nous approprier ce texte, souvenons-nous qu'il a été donné à un peuple qui vivait une histoire particulière, qui était dans un contexte particulier. Et Ésaïe parle à son peuple, le peuple d'Israël, dans une période troublée de son histoire. C'est une période où les grandes puissances régionales commencent à se lever. Et il y a Babylone qui croque ses voisins, qui les annexe, qui les conquiert les uns après les autres. Ça sent pas très bon pour les deux petits royaumes d'Israël, Israël et puis Juda encore plus petit. Ils risquent d'y passer comme les autres. Mais derrière l'explication géopolitique, la Bible offre aussi une explication spirituelle. Ce peuple, il a toujours été tout petit. Et s'il tenait, s'il était là, c'était parce qu'il avait le soutien de Dieu. Sauf que il a été infidèle. La royauté s'est dégradée, les rois ont cessé d'être fidèles, ils se sont tournés vers d'autres dieux. Ils n'ont pas respecté l'alliance. Et dans les termes d'alliance, Dieu avait dit déjà dans le livre du Deutéronome que le châtiment serait qu'ils seraient chassés de ce pays, déportés. Et la première partie du livre d'Ésaïe annonce ce châtiment, annonce la déportation. Et ça arrive. Au milieu du livre de Jérémie, d'Ésaïe à peu près, en 701, il y a la prise de Jérusalem et l'exil à Babylone. Et le peuple est traumatisé par ça. Une nation qui est effacée, son peuple qui est déplacé, emmené ailleurs. Ils cherchent à comprendre ce qui leur arrive. Eux qui étaient choisis, eux qui étaient bénis par Dieu. Ils cherchent à comprendre, en cherchant Dieu, ce qu'il a à dire. Et c'est là qu'est la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui commence au chapitre 40, verset 1, par ces mots. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Il y a vraiment une rupture dans le livre d'Ésaïe avec tout ce passage sur les condamnations à venir et ce tournant. « Consolez, consolez mon peuple. » Après avoir annoncé la condamnation à venir, comme pour dire « Arrêtez tant qu'il en est encore temps », Ésaïe, porte-parole de Dieu, vient leur rappeler que Dieu les aime toujours. Il cherche à les consoler et à s'occuper d'eux. Et ce texte, je le disais, il nous parle à nous aussi aujourd'hui. Nous aussi, nous avons soif de cette équité, de cette justice, de ce droit que le serviteur amène. Et ça tombe bien parce que l'équité qui est annoncée, elle n'est pas seulement pour le peuple d'Israël. Là, dans cette prophétie, c'est annoncé qu'elle est beaucoup plus large. Elle est l'équité pour les nations, pour la terre, pour les îles lointaines. J'aime beaucoup le verset 7, où Dieu dit ce que ça veut dire, apporter l'équité. C'est le serviteur est là pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse le prisonnier et de la maison de détention les habitants des ténèbres. Concrètement, apporter l'équité, ça va être libérer les prisonniers. Ça peut nous paraître étrange à nous qui lisons cela. Si on est emprisonné, d'habitude, c'est qu'on le mérite, à moins qu'il y ait une erreur judiciaire, mais bon, globalement, on le mérite. N'oublions pas qu'il parle aux Israélites qui sont emmenés en captivité suite à une défaite militaire. Alors certes, ils le méritent, ils font partie d'un peuple qui a désobéi. Ils sont dans cette responsabilité collective. Mais ils ont l'impression que c'est trop grand, qu'ils ne méritent pas ça. Ils aimeraient être libérés, simplement. Le serviteur vient pour libérer ceux qui sont captifs. Il vient aussi pour ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux des aveugles. Et je trouve ça m'a fait réfléchir de voir que les deux sont associés, l'emprisonnement et l'aveuglement. Faire sortir de la maison de détention les habitants des ténèbres. Les habitants des ténèbres, ce sont ceux qui vivent dans l'obscurité. L'aveugle vit dans l'obscurité. Et il y a là l'image du peuple qui ne voit plus clair, qui ne sait plus ce qu'il doit faire, qui ne connaît plus le droit, qui ne pratique plus l'équité. Et leur emprisonnement, il est moins dû aux Babyloniens qu'à leur aveuglement. C'est leur aveuglement, leur perte de repère qui les retient prisonniers, plus que tout, qui fait qu'ils ne sont pas libres, qui fait qu'ils ont, ils ont besoin d'y voir clair. Et n'est-ce pas ce dont nous aussi, nous avons besoin? Notre monde est-il équitable? Y a-t-il le règne du droit et de la justice? Il y a une telle différence dans les situations. Des fois, on s'amuse à calculer dans une entreprise la différence entre le salaire le plus haut et le salaire le plus bas. Où est l'équité? Dans un pays, il y a des privilégiés et des défavorisés. On peut avoir la chance de naître dans une famille plutôt qu'une autre, dans un pays plutôt qu'un autre. Notre monde a besoin du droit, de la justice, de l'équité. Seulement, c'est difficile. Sans être tout en haut de l'échelle, toujours un intérêt de notre situation. Être au-dessus de quelques-uns, ça nous donne toujours un privilège. On a toujours un truc qu'on n'a pas envie de lâcher. On peut dire de façon un peu facile, il y en a au-dessus de moi, eux d'abord. Le serviteur, il vient apporter le droit et la justice à tous. On a tous besoin de sortir de notre aveuglement. Je le disais au début, nous savons, on nous l'a dit, que c'est Jésus, ce serviteur, qui est venu. C'est pas évident à la lecture du texte. Et les lecteurs juifs se sont demandé, et se demandent encore, qui est ce serviteur? Est-ce que c'est le peuple d'Israël? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est le roi Cyrus qui est désigné ainsi? Nous avons le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est clair. C'est hallucinant, si vous regardez dans une Bible d'études qui fait des renvois, le nombre d'allusions qu'il y a de ce texte dans les évangiles. Ça pose une question. Le serviteur vient imposer l'équité. Nous voyons que dans notre monde, elle manque, elle fait défaut. Jésus a-t-il échoué? Jésus n'est-il pas suffisant? Je pense que pour répondre à cette question, il faut un peu élargir notre regard. J'ai dit qu'il y avait d'autres champs du serviteur qui viennent compléter l'image. Dans celui que nous avons lu, nous parlons de. Le prophète parle de douceur, de loyauté. Avec la douceur que Jésus a gardée jusqu'au bout, il a été pris à partie lorsqu'il a dérangé. Parce que, assurément, un tel programme, ça dérange. Au début, c'est chouette lorsque le serviteur commence à apporter la justice aux marges, mais rapidement, il y en a qui perdent leur intérêt. Et quand ça touche aux puissants, là, ça dérange vraiment. Dans un autre champ du serviteur, Ésaïe annonce que ce serviteur sera un serviteur souffrant. Je lis le prophète. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? On a mis sa tombe parmi celles des méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. Dans ce texte, dans cet extrait, Ésaïe annonce l'opposition que rencontrera le serviteur. Il annonce la mort qu'il subira. Mais il annonce aussi sa résurrection, que le Seigneur le rétablira et qu'il ira jusqu'au bout. Et nous, qui avons la chance d'avoir le Nouveau Testament, nous savons que Jésus est vivant aujourd'hui. Nous savons que son travail, par son esprit, se poursuit toujours. Nous savons que l'équité est en route. Nous savons que le Seigneur apporte la justice aux nations, l'équité sur terre, la lumière aux nations. Et nous savons qu'il a promis de revenir et que ce jour-là, l'équité sera pleinement présente. C'est notre espérance pour nous aujourd'hui. Au moment de conclure, j'aimerais relire ce dernier verset de ce que nous avons lu. Le passé est arrivé. Je vous annonce du nouveau. Avant que cela ne germe, je vous le fais entendre. Pour garantir la promesse de la venue du serviteur, Dieu rappelle que le passé est arrivé. Il rappelle qu'il les a libérés déjà une première fois de l'esclavage lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Et c'est avec ce souvenir de cette délivrance qu'ils peuvent croire en la promesse du serviteur à venir. Déplaçons-nous. Nous sommes dans une situation similaire. Nous pouvons croire au retour de Jésus parce que celui-ci est déjà venu. De la même façon que Dieu a tenu sa promesse, qu'il a fait venir Jésus, il le fera revenir. Luc, dans son évangile, nous rapporte que, au début de son ministère, Jésus va à la synagogue et ce matin-là, on cherche un lecteur. Il y va et on lui fait lire, tenez, Ésaïe, le chapitre 61. Jésus lit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roule le livre, il le rend au serviteur, s'assoit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixent les yeux sur lui. Alors, il se mit à leur dire, ce passage de l'Écriture est accompli. Aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. Joyeux. Levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Je vous invite à rechanter la première strophe de ce chant que nous avons chanté tout à l'heure.